Alors, je continuerai avec une émission consacrée exclusivement à des textes qui parlent de Shoah pour Yom HaShoah. Et le premier ouvrage que je voulais vous présenter, c'est l'ouvrage de Omer Bartov, Compte des frontières, faire et défaire le passé en Ukraine aux éditions Plein Jour. Alors, le livre d'Omer Bartov évoque une civilisation oubliée, celle qui s'étendait de la Baltique aux Balkans, qui a été emportée par la Seconde Guerre mondiale. Une civilisation composée de différentes langues, de différentes cultures et de différentes religions. Et je vous lis un premier extrait. Raconter cette histoire dans son intégralité est impossible. Cela le priverait de ce qui la rend à la fois fascinante et unique. Il s'agit d'une histoire importante car, à bien des égards, elle dessine notre monde contemporain en partant d'une réalité nettement différente. Nous avons tendance à considérer le passé comme une simple passerelle vers notre présent, plus progressiste et plus évolué. Toutefois, effacer ou marginaliser le passé signifie non seulement que nous ne comprenons pas le présent, mais aussi que nous ignorons ce que nous avons perdu. C'est à travers des histoires et des contes que l'auteur entreprend de faire revivre ses lieux et ses croyances. Comme Agnon, il prend pour point de départ la petite ville de Boukhatch, la ville d'origine d'Agnon, mais aussi de la mère d'Omer Bartov. Et je vous lis un deuxième extrait. Ceci est l'histoire de Bichatch, c'est-à-dire Bouchatch. Je l'ai écrite dans le tourment et l'affliction afin que nos enfants, après nous, dans chaque génération, sache que notre ville était pleine de Torah, de sagesse, d'amour, de ferveur, de pitié, de charme et de grâce depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à ce que se produise l'abominable dévastation que se répandent l'impureté et la démence de ceux qui voulurent l'anéantir. Veuille le Saint béni soit-il, venger le sang de ses serviteurs et délivrer Israël de tous ses malheurs. Ce texte, écrit par Agnon, ne raconte pas la dévastation de sa ville natale, mais à l'inverse, édifie un monument à ce que fut la vie de Boukhatch. Une biographie faite de multiples facettes, la montrant telle une ville juive. Agnon était un maître pour sonder l'âme humaine et les relations tortueuses de ses personnages. Cependant, il prenait rarement le temps d'observer l'environnement naturel, les lieux dans lesquels se déroulaient ses romans. Il débute pourtant son livre par un long développement, souvent cité sur l'aspect de la ville. Ce passage s'ouvre sur une analogie implicite avec Jérusalem, telle qu'elle est présentée métamorphoriquement, pardon, dans la Bible, comme la forteresse géographique et spirituelle des Juifs. Et Agnon poursuit en faisant de Boukhatch un véritable paradis. À travers les récits et les légendes, il fait émerger des mentalités, des stéréotypes, un antisémitisme virulent parfois, et à cet égard, l'exemple de Gogol est exemplaire, puisque Gogol va servir de maître à écrire pour toute la littérature russe et pour une grande part de la littérature moderne. Et les stéréotypes du juif qui sont campés face aux Cosaques dans des rôles beaucoup plus positifs façonnent là aussi tout un imaginaire. Alors, Omer Bartov termine son ouvrage en évoquant l'installation de sa famille en Palestine avant la création de l'État d'Israël. Et je terminerai par un extrait que j'ai trouvé particulièrement touchant, dans lequel il décrit une photo prise en Israël en 1979, une photo qui réunit quatre générations. Cette photo capte bien la fin de ce voyage. En la regardant aujourd'hui, je suis frappée de voir à quel point elle révèle l'équilibre précaire qui existe entre les aspirations, la volonté et l'implacable logique de l'histoire et de la biologie. Ces quatre générations se croisent pour un bref moment. Ma grand-mère est morte l'année suivante. Nos vies ont été entraînées ou détournées par le hasard et les coïncidences, l'espoir et la volonté. Mais comme tant d'autres, nous continuons de porter en nous un fragment de mémoire transmis d'une génération à l'autre, le rappel des siècles traversés, pour le meilleur et pour le pire, dans cette Ecke-Welt, ce recoin du monde, comme un écho d'une enfance perdue, mais jamais tout à fait oubliée. Voilà un extrait du texte de Omer Bartov, Compte des frontières, faire et défaire le passé en Ukraine. Et c'est publié, je vous le disais, aux éditions Plein Jour. C'est un ouvrage qui est traduit de l'anglais. Autre roman que je voulais vous présenter cette semaine, le roman d'Ariel Magnus, Oma, publié aux éditions de l'Observatoire. Il est traduit de l'espagnol, d'Argentine. Ariel Magnus est un écrivain, un critique littéraire argentin. J'avais présenté son roman précédent, Eichmann à Buenos Aires, qui était également publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, ce roman d'inspiration autobiographique raconte la visite de sa grand-mère en Allemagne, un long voyage pour cette vieille dame, une perspective que son petit-fils accueille d'ailleurs avec ambivalence, à l'idée qu'elle reste longtemps. Sinon, lui dit-elle, ça n'a pas de sens, et chez lui plutôt qu'à l'hôtel. Et je vous lis un premier extrait. Sur le trajet retour de l'aéroport, j'ai prévenu ma grand-mère qu'elle logerait dans le pire quartier de Berlin. Dès que nous sommes arrivés en banlieue, bien plus laide encore que le centre, elle a pourtant trouvé ça beau. J'ai insisté, par provocation, je dois l'admettre, sur le fait que Neukölln était dangereux, sale et pauvre. Que c'était plein d'étrangers, de chômeurs et d'ivrognes. Elle s'en fichait. Son petit-fils devait forcément vivre dans un bon quartier et ainsi l'avait-elle jugé, encore dans la voiture. Concernant l'appartement, en revanche, que je me suis avancée à qualifier de merveilleux, c'est tout le contraire qui s'est passé. En cela, comme tant d'autres choses, ma grand-mère est une petite fille. Si nous l'avions compris enfant, ma mère ne se lassait pas de le répéter, nous l'aurions aimée un peu plus. Mais nous avons dû attendre d'être grands, mes frères, sœurs et moi, pour comprendre et agir en conséquence. Depuis, ma grand-mère est en quelque sorte notre petite fille et nous, ses quatre grands-parents. Oma est un personnage haut en couleur, une femme pétrie de contradictions dans son rapport aux gens, aux objets, à la culture, mais plus encore à l'Allemagne. Juive rescapée des camps, elle accepte pendant son séjour de parler à son petit-fils et de lui raconter son vécu pendant la guerre. Comme on pouvait s'y attendre, elle fait les choses à sa manière et le récit est aussi décousu que déconcertant. Et je vous lis un second extrait. La veille, j'avais passé l'après-midi à revoir mes quatre fichiers de questions. En relisant nos échanges, j'ai eu confirmation de mon intuition. Oma avait d'abord parlé de l'après, le camp de réfugiés en Suède, sa vie au Brésil, puis de l'avant, sa mère aveugle, internée à l'hospice et son père absent. Sa tante mariée à un Allemand, sa petite sœur qui vivait chez sa tante, déportée très tôt et brûlée vive près de Lublin. Sa fuite de son village natal, son travail difficile à l'hôpital de Hambourg, le train pour Theresienstadt à la recherche de sa mère, de l'avant et de l'après, elle n'avait donc parlé, mais du pendant, au-delà de quelques lignes citées dans son journal d'après-guerre, à peu près rien. Échaudée par la séance de la veille, je m'étais jurée de ne plus laisser ma grand-mère recommencer à me balader d'un bout à l'autre de mes souvenirs, ou de ses souvenirs plutôt, tournant autour de leur axe principal, je voulais qu'elle me parle d'Auschwitz. Alors au moment où il croit à la cause perdue, c'est finalement sa grand-mère qui revient vers lui. Sur le trajet retour de l'aéroport, j'ai prévenu ma grand-mère qu'elle logerait dans le... Oh pardon, c'était pas spécial. C'est un autre extrait, excusez-moi. Le texte raconte cette... Pardon, voilà mon extrait, excusez-moi. Avant que nous allions nous coucher, ma grand-mère est venue me demander quand on allait terminer notre truc. Et je lui ai répondu « demain », tâchant de dissimuler le soulagement que m'avait provoqué son regain d'intérêt. J'avais déjà appris à ne pas prendre trop au sérieux ma grand-mère, mais je dois avouer que, quelque part, au fond de ma conscience, je savais que j'étais effectivement en train de la torturer. Elle avait sans doute davantage dormi qu'elle ne le prétendait, et sans doute que mes questions ne l'importunaient pas tant que ça, et qu'elle ne pensait pas que je me moquais d'elle. Mais ce qui est certain, c'est qu'il aurait suffi que pendant une fraction de seconde, elle ressente cela, la moquerie, la fatigue, l'inconfort, pour que mon insistance se mette à ressembler à une violation de son intimité. De quel droit, me demandait-elle, je venais remuer ses souvenirs qui la rendaient malheureuse. L'excuse du « c'est pour ton bien » était obsolète, je devais l'admettre. J'avais un intérêt personnel pour le sujet. Aussi évident que cela paraisse aujourd'hui, j'avais du mal à accepter que ce ne fut pas seulement l'histoire de ma grand-mère, mais aussi ma relation avec elle et avec son passé qui était mise en jour. Ce que je n'avais jamais vraiment pris conscience de ce qu'avait vécu Oma. Le texte raconte donc cette période au cours de laquelle le petit-fils et la grand-mère ont tant partagé. Plus largement, le récit décrit aussi une prise de conscience de ce petit-fils qui comprend mieux la personnalité de sa grand-mère, son choix de vivre, sa décision de ne pas raconter l'horreur vécue pour préserver le bonheur de ses enfants, le besoin de former une famille, tout simplement, après-guerre, de pouvoir se réunir autour d'une table, le désir d'avoir des enfants, alors qu'elle-même n'a pas eu de jeunesse, et enfin, le refus de se plaindre. En résulte une personnalité attachante, quoique, il faut bien le dire, insupportable. C'était de Ariel Magnus, Oma, aux éditions de l'Observatoire, je vous le disais, cette chronique familiale qui nous entraîne d'Auschwitz à Sao Paulo. Et puis, autre roman que je voulais vous présenter aujourd'hui, le dernier bateau pour l'Amérique de Karine Lambert. Alors, il s'agit d'un roman qui est publié aux éditions La Belle Étoile. Et j'avais présenté récemment un autre ouvrage publié aux mêmes éditions, Bien aimé, de Aurélie Tramier. Alors, cette fois-ci, c'est un ouvrage qui nous raconte, de nouveau, qui nous parle de Shoah. La narratrice vient de perdre sa mère, une mère froide, distante, avec laquelle elle a en fait rompu tout contact depuis très longtemps. J'ai appris la nouvelle par texto, c'est chamboulant de perdre une mère qui n'en a pas été une. J'ignore ce que je dois ressentir, je n'ai ni frère ni sœur avec qui partager un chagrin ou confronter des sentiments divergents. J'ai appelé mes amis les plus proches, impossible d'annoncer ce départ à d'autres, de résumer cette non-mère en deux phrases. Comment pourrais-je traduire mon désarroi ? On raconte que les filles uniques sont chouchoutées, pourries, gâtées. On n'envisage pas le contraire. C'est difficile de dire « ma mère est morte et je n'assisterai pas à son enterrement ». Mais suite à son décès, la narratrice décide de mener une sorte d'enquête pour découvrir qui était sa mère. Et elle découvre que sa mère a vu sa vie basculer le jour de son 10e anniversaire, c'était le 10 mai 1940. Je vous lis le deuxième extrait. Quelque chose cloche. Ses parents, sa babouchka et ses sœurs sont déjà habillés alors qu'ils prennent toujours le petit déjeuner en peignoir. Tout s'affiche un air grave. Son père replie son accordéon et le dissimule sous une couverture dans l'armoire du couloir. Elle regarde ébahie sa mère cachée, la petite horloge du salon dans un panier à linge, jeter des chandails et des passeports dans un sac, envelopper le chandelier de Shabbat, les couverts en argent, le samovar et une icône dans des châles. Elle décroche la mezouza de la porte du palier, hésite un instant avant de l'enfouir dans son corsage. Germaine ne comprend pas ce qui se passe, cette mezouza, qu'elle effleure chaque matin en partant à l'école, les protège. Son ventre se serre, elle voudrait qu'on lui explique la raison de cette agitation. Commence l'exode, un voyage vers l'inconnu, comme tant d'autres familles de Belgique au même moment. Pour Germaine Chamisseau, jeune pianiste prodige, s'éloigner de son instrument représente un drame supplémentaire. C'est son rêve de pianiste qu'elle perd en même temps. Au cours de ses recherches, la narratrice est partagée entre l'envie de savoir et la peur de ce qu'elle va découvrir. Sa quête l'entraîne à Odessa, à Anvers, à Marseille, à New York et à Bruxelles. Et je vous lis un dernier extrait. Certains rescapés de la Shoah parlent à l'infini, cultivent le devoir de mémoire. D'autres se taisent à jamais. Ma famille appartenait à la deuxième catégorie. À trop enfouir leurs secrets, mes grands-parents usaient et abusaient de tranquillisants. Ils les appelaient les petites douceurs. Quand je posais des questions, leurs yeux s'embuaient. C'était trop pour eux de raconter comment ils s'étaient détachés de leur pays, de leur langue, de leur maison, de leurs parents, de leurs rêves. Comment ils avaient été forcés de tout quitter plusieurs fois et sans cesse rebâtir ailleurs. Parce qu'elle vient d'une famille qui a choisi de se taire, elle est contrainte à patiemment assembler les bribes récoltées, quitte à imaginer ce qu'elle ignore. Après les regrets de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui n'a pas été, vient le moment des recherches qui permet de mieux comprendre les silences, les résistances, cette réserve. C'est un voyage physique et mental éprouvant qui permet à la fille de se réconcilier, de renouer le fil entre les générations, de finalement remercier sa mère d'avoir choisi la vie et de lui avoir donné la vie. C'est Le dernier bateau pour l'Amérique aux éditions La Belle Étoile, un roman de Karine Lambert. Et puis, je voudrais rappeler quelques titres récents que j'ai présentés les derniers mois et qui évoquaient aussi la Shoah. Un de mes grands coups de cœur, c'était le texte de Lucie Adelsberger, une pédiatre à Auschwitz aux éditions Anne Carrière. C'est un ensemble de textes très courts qui évoquent la période avant, pendant et après la Shoah. Le recueil est précédé de deux préfaces, celle d'Annette Viviorca qui insiste sur le moment de la rédaction. C'est très rare effectivement que les rescapés aient commencé à rédiger leurs souvenirs tellement tôt, et Lucie commence en 1946. Et la deuxième préface est celle du traducteur qui insiste lui sur la personnalité de l'auteur. Ce n'est clairement pas une femme typique de son époque. Elle a étudié la médecine à une époque où les femmes constituent une minorité infime des étudiants dans les auditoires, moins de 4%. Elle s'est en plus spécialisée en médecine interne et en pédiatrie pour aider à développer cette branche nouvelle de la médecine qui s'intéresse aux allergies. Et évidemment, 1933 va mettre fin à sa carrière de chercheur, avec les restrictions qui suivent la nomination d'Hitler au poste de chancelier. Comme toutes les autres médecins juifs, elle va perdre son agrément, ce qui implique non seulement une perte de revenus pour elle, mais en fait une dégradation de la médecine à Berlin en particulier, puisque de très nombreux médecins étaient juifs et ne vont pas être remplacés. Et ce que j'avais trouvé particulièrement émouvant, c'était le passage où elle expliquait que si elle n'a pas émigré au moment où il était encore temps, c'était en grande partie parce que sa mère refusait de partir, que sa mère n'a pas pu, au moment où elle était prête à partir, quitter le pays. Et elle décrit d'ailleurs cette situation déchirante dans un texte, situation qui est celle de très nombreux juifs de sa génération au début de la guerre. Après la guerre, il est impossible pour elle de rester vivre en Allemagne dans le soupçon. « Je ne peux pas vivre avec la haine » ou plus exactement, écrit-elle, avec la défiance, « en faisais-tu partie, toi ou ton mari ou ton frère ?» Alors, comme le dit Elie Wiesel dans La Nuit, se pose la question du témoignage. Le témoignage ne sera pas reçu. Ceux qui ont connu Auschwitz savent ce que c'était et les autres ne sauront jamais. Et enfin, il y a la difficulté à se reconstruire physiquement, psychologiquement, professionnellement, puisqu'elle a perdu des années de carrière. Alors, parmi les passages qui sont extraordinaires, il y a ceux qui décrivent la période qui précède la guerre, entre autres un texte qui s'appelle « Dans la souricière » où elle évoque un piège qui se met en place et se referme sur les Juifs. Et avec beaucoup de sensibilité et de clairvoyance, elle explique qu'en fait, ce sont des petits décrets qui pourraient paraître tout à fait anodins, mais qui sont déjà lourds de sens dans la mesure où ils isolent complètement les Juifs. Par exemple, l'interdiction pour les Juifs de s'asseoir sur un autre banc que ceux qui sont réservés aux Juifs dans l'espace public. Elle a une grande attention, une grande clairvoyance sur ce qui se passe et les conséquences à long terme. J'évoquais tout à l'heure ce texte « Quand les enfants prient pour la mort de leurs parents », tout à fait déchirant, où elle évoque de nouveau avec ce mélange de pudeur et de clairvoyance et parfois une touche de cynisme, le fait qu'elle et d'autres refusent d'abandonner leurs parents, sont du coup incapables de fuir, mais sont aussi incapables d'abréger l'existence de leurs parents tout en parfois souhaitant secrètement qu'ils meurent. C'est un texte qui, à mon sens, est tout à fait majeur au ton personnel, remarquable par ce mélange de descriptions, d'analyses, je vous le disais, de clairvoyance, mais aussi d'amour et parfois d'ironie et finalement d'humanité envers et contre tous. C'est donc Une pédiatre à Auschwitz aux éditions Anne Carrière de Lucie Adelsberger. Et puis, autre texte que j'avais présenté, qui me semble lui aussi tout à fait majeur, c'est le texte de Richard Glazard, « Derrière la clôture verte, survivre à Treblinka, chez Actes Sud ». Richard Glazard est né à Prague en 1920 dans une famille juive assimilée. Il a commencé ses études de philosophie et d'économie. Et puis il a dû tout interrompre à cause de la guerre. Il a été envoyé à Theresienstadt, puis à Treblinka, où il a participé à la révolte du camp. Son témoignage a paru en 1967, d'abord, puis dans une revue, puis sous forme de livre. Il a témoigné en 1974 pour le film Shoah de Claude Lanzmann, un témoignage qui a été considéré comme particulièrement fiable, pointilleux, distant, dépassionné, qui montre non seulement une mémoire exceptionnelle, mais un grand sens de l'analyse dans la description des relations entre les prisonniers, par exemple, ou entre les prisonniers et les chefs de camp. Alors, à la suite de cette révolte de Treblinka, il fuit avec son ami Karel, et ce qui les sauve, c'est assez ironique, c'est que par erreur, il marche en direction du front russe. Et alors, dans la noirceur de ce récit, le lecteur se souviendra pourtant de l'histoire des brillants. En ouvrant le nécessaire de rasage de poche qu'il a subtilisé et emporté avec lui, il trouve quatre petits diamants enfoncés dans le savon à raser. Et alors, le plus surprenant, c'est qu'ils se font toutes les deux cette promesse mutuelle de ne jamais utiliser ces diamants pour leur survie, mais au contraire, de les garder pour se souvenir. Voilà, une grande découverte. Ce texte dont la lecture s'est révélée tellement éprouvante qu'à certains moments, j'étais tout à fait incapable de lire plus de 10 pages à la fois. C'est donc de Richard Glazard, « Derrière la clôture verte, survivre à Treblinka » chez Actes Sud. Et je terminerai par deux ouvrages destinés à nos jeunes lecteurs. Le premier, c'est « Simone », c'est le tome 2 de Morvan, Évrard et Ben Beka. C'est chez Glénat pour les 9 et plus, c'est une bande dessinée. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette BD qui raconte l'histoire de Simone Lagrange, arrêtée en 1944 alors qu'elle n'a que 13 ans. Elle est interrogée et brutalisée par Klaus Barbie, qui l'a fait déporter à Auschwitz-Birkenau. Le récit nous la montre aussi âgée de 43 ans au procès du même Barbie, celui que l'on a surnommé le boucher de Lyon et qui nie ce qu'il a fait pendant la guerre. La narration va donc croiser les récits, intégrer des dessins, témoignages, une BD un peu loufoque, Esther et Polly, et chacun en fait apporte un regard supplémentaire, un éclairage différent. C'est une bande dessinée sensible, émouvante, un récit qui évoque la souffrance de Simone, mais aussi sa détermination, sa colère plus tard face à la mauvaise foi et aux mensonges. Et outre le récit de Simone face à Barbie, le lecteur découvrira l'histoire des enfants des yeux, les horreurs commises par Mengele. Il va découvrir les persécutions envers les Juifs, l'horreur des camps, la fuite des anciens nazis après la guerre, les difficultés de témoigner pour les rescapés et ce doute si douloureux qui va accueillir leur témoignage. Et puis malgré tout, elle sait mettre en avant des moments de solidarité, d'amitié, de courage qui permettent de continuer à croire en l'humanité. Ce sont de très très beaux dessins, d'une grande richesse pour traduire ces multiples points de vue du récit. C'est donc une toute grande réussite à partager, à mon avis, absolument avec la jeune génération, je vous le disais, à partir de 9-10 ans. C'est donc Simone chez Glénat. Et pour terminer, illustré par Gilles Rapoport de Roland Claus et Guibel, Les enfants d'Isieux aux éditions 2, là aussi à partir de 9-10 ans. C'était le 6 avril 1944, il y a 80 ans, le premier jour des vacances de Pâques, les 44 enfants juifs de la colonie d'Isieux et les 7 adultes qui s'occupaient d'eux ont été arrêtés par la Gestapo sur ordre de Klaus Barbie, dit le boucher de Lyon, toujours lui. Les enfants ont tous été déportés et assassinés à Auschwitz, et parmi les adultes, seule une des éducatrices, Léa Feldblum, a survécu. Ce livre destiné aux enfants raconte leur histoire, leur quotidien à la colonie, les petits événements qui remplissent leur journée, un anniversaire, la création d'une pièce de théâtre. Ils racontent leurs échanges, la place de chacun, leurs jeux et leurs projets. Tout cela jusqu'à ce 6 avril, quand les silhouettes sombres entrent, suivies de soldats allemands qui crient « Schnell, Schnell ». Les enfants sont entassés dans deux camions, les adultes arrêtés. sous forme de poèmes illustrés par des peintures en noir et blanc. Le livre raconte leur interrogatoire, les menaces, le départ en train vers Drancy, puis vers Auschwitz, où ils seront assassinés. Ici s'achève cette émission particulière consacrée à Yom HaShoah. Shalom à tous et à la semaine prochaine.